Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 13 juillet 2023 sur choc.ca, en balado ou en direct tous les deux jeudis, 18h30, et sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM sur la côte ouest. Simon à l'animation cette semaine avec mes deux acolytes Marie-Ève et Mathieu. Allô, allô!
Salut à vous deux!
Salut Mathieu, qui est à la console.
Allô!
Salut! Donc vous allez, vous deux, vous relayer à tour de rôle au fauteuil de la régie et à celui du micro du chroniqueur, de la chroniqueuse à mes côtés. Marie-Ève, tu vas nous amener en Tunisie plus tard dans l'émission et tu vas commencer avec un premier bloc sur différents enjeux autochtones tantôt.
Oui, exactement. Je vais vous parler à la fois de sécurisation culturelle et je vais revenir sur les feux de forêt.
Oui, il y a une genre d'injustice climatique par rapport à ça. Donc
exactement.
Ça va tourner autour de ça. Donc, ouais. Toi, Mathieu, tu vas nous parler d'actualités liées à l'immigration ici au Québec-Canada et tu vas faire le point sur la situation en Italie et...
aux îles Canaries.
Parfait, oui, on a hâte.
Voilà, aux îles Canaries, je suis là.
Mathieu est très là. On a hâte de te retrouver un peu plus tard aussi. Je brise la glace tout de suite avec une nouvelle française assez particulière. D'abord, Macron qui dit, après une semaine d'émeutes, que la crise est terminée. Ben oui, hein,
ben jusque, oui
jusqu'au prochain assassinat policier d'un jeune racisé dans quelques mois. Mais ce que je trouve vraiment spécial, c'est cette campagne GoFundMe qui a été lancée par Jean Messia, ancien membre du Rassemblement national / Front national et ex-porte-parole d'Éric Zemmour, un GoFundMe pour la famille du policier qui a abattu le jeune Naël à Nanterre, en région parisienne, cagnotte qui a ramassé en 6 jours 1,5 million d'euros avant d'être...
Pour le flic, en fait.
GoFundMe qui a été fermé par la justice française, donc ce qui entraîne toutes sortes de débats plus ou moins surréalistes vus à partir d'ici, de Montréal. Ce monsieur Messia juge que cet afflux important de dons exprime un soutien populaire massif envers les forces de l'ordre. Bon, il faudrait voir d'où proviennent les dons. Je suis pas sûr que ça vienne de Monsieur, Madame, tout le monde, ou comme on dit en France, de Monsieur, Madame, Tartampion. Mais en attendant, la famille de Naël Merzouk, 17 ans, peut toujours se consoler en sachant que le policier qui a tiré sur leur enfant est accusé de meurtre. Mais elle peut certainement pas espérer de soutien financier à la hauteur de ce qui a été ramassé pour le policier assassin. L'argent récolté sera probablement remis au donateur sans aucune conséquence légale et non à la famille de la victime qui en aurait bien plus besoin. Sinon, au courant de la prochaine heure et 10, en plus des chroniques déjà annoncées, un agenda peut-être un peu plus mince que d'habitude, et comme toujours, des nouveautés musicales assez variées. Donc voilà, bienvenue aux Apatrides Anonymes en compagnie de Marie-Ève, Mathieu et Simon. Avant de céder la parole à Marie-Ève pour des enjeux autochtones, on se fait plaisir un petit peu de décolonialisme. Les paroles, ma foi, très guerrières et vindicatives du Haut-Canada. Il y a une chanteuse afro-canadienne, Julie Black, qui avait servi une interprétation très légèrement modifiée de l'hymne national lors d'un match de la NBA à Toronto. Au lieu de chanter « Her home and native land », elle avait chanté « Her home on native land » ou « Notre patrie sur les terres autochtones ». Donc voilà, pas obligé de tout bouleverser. Des fois, juste un petit détail, ça peut faire toute la différence. Le conseil municipal de Mississauga envisage même de voter une résolution pour demander au fédéral d'adopter officiellement ce changement-là du Haut-Canada. On ne sait jamais, il n'y a rien d'immuable dans la vie. Est-ce qu'on est prêt pour l'indicatif d'intro? Donc, on peut officiellement commencer l'émission des Apatrides Anonymes. Avant de passer le micro à Marie-Ève, une dernière petite brève décoloniale, appelons ça comme ça. Donc, à Ottawa, on envisage de changer le nom de la Sir John A. Macdonald Parkway pour Kitchi-Zibi-Mikan, un nom algonquin. Je ne sais pas si le monde va trouver ça aussi difficile qu'Adadegun, ce qui n'est pas si difficile que ça si on veut juste faire un petit effort. Mais en tout cas, suite à un exercice de consultation où les communautés autochtones de la région ont été consultées, le directeur de la Commission de la capitale nationale a soumis la proposition à son conseil d'administration et c'est à l'étude actuellement. Fait troublant, ce Parkway, je ne sais pas comment on dit ça en français, cette route panoramique, disons ça comme ça, s'appelait simplement Promenade des Outaouais, mais a été renommé Sir John A. Macdonald Parkway en 2012, durant le règne de Stephen Harper, grand défenseur de l'héritage colonial et monarchiste britannique. Même à McDonaldville ou Kingston, Ontario, où tout est King, Queen, Amherst, McDonald, l'un des monuments historiques majeurs de la ville, c'est la Villa Bellevue, où a habité quelques années McDonald et sa femme. Bien, actuellement, l'intérieur est fermé au public parce qu'on est en train de refaire, en collaboration avec des historiens autochtones, l'exposition présentée aux visiteurs pour mettre l'emphase justement sur le colonialisme et les pensionnats. Donc, je serais curieux, une fois réouvert, j'irai visiter la Villa Bellevue et je vous ferai un compte-rendu critique aux apatrides, peut-être autour de 2025. Je suis curieux de voir comment on va expliquer aux jeunes et aux touristes ce très lourd et très délicat héritage. Marie-Ève, finalement, tu es avec moi, donc on continue un peu dans la même lignée.
Tout à fait dans la même lignée, sauf que, bon, des fois, il y a des approches décoloniales qui se font du bout des lèvres. C'est le cas pour la première nouvelle que je vous... dont je vais vous parler, c'est qu'au début juin, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, a présenté son projet de loi 32 supposé instaurer l'approche de sécurisation culturelle dans le réseau de la santé et des services sociaux. Avec sa future loi, le personnel du réseau de la santé va avoir l'obligation de tenir compte des réalités culturelles et historiques des personnes autochtones dans toutes leurs interactions avec elles. Mm-hmm. On ne sait pas grand-chose du contenu du projet de loi, outre le fait que le gouvernement va pouvoir prescrire par règlement les conditions et les modalités qui vont permettre l'exercice par des autochtones de certaines activités professionnelles réservées en vertu du Code des professions. Le président du conseil d'administration de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Derek Montour, salue cette ouverture-là, mais il considère qu'elle permet pas vraiment la levée de toutes les barrières par rapport aux langues et à la reconnaissance des savoirs traditionnels, entre autres. Surtout que dans le projet de loi, on lit que les établissements devront adapter lorsque possible.
Ah, une petite porte de sortie ici.
C'est ça. Ce qui fait dire à Derek Mondour que le projet de loi manque de mordant et il ajoute aussi qu'il comporte aucun indicateur de mesure de réussite. Il y a aussi d'autres organisations autochtones qui désapprouvent une partie du contenu du projet de loi. Par exemple, Femmes autochtones du Québec et le Bureau du principe de Joyce. Je ne savais pas qu'il y avait eu un bureau nommé... En ce nom-là, remettre en question en tout cas la définition de la sécurisation culturelle du gouvernement et soutiennent aussi que le projet de loi peut en aucun cas remplacer le principe de Joyce. Les deux organisations, en plus de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, accusent le gouvernement d'incohérence parce que, ben, d'un côté, ils s'inspirent du principe de Joyce, mais de l'autre, ils refusent de l'adopter officiellement. Et puis, ben, ça, c'est sans parler du refus de reconnaître le racisme systémique.
C'est ça, il veut juste adopter quelques éléments selon son propre agenda.
Exactement. L'APNQL ajoute que c'est aux Premières Nations de définir et d'assurer le respect de leur sécurisation culturelle et non pas au gouvernement. Elle rappelle que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît les droits des Premières Nations à se gouverner elles-mêmes et à protéger et à promouvoir leur culture en adoptant leurs propres politiques et règlements. Je cite l'APNQL. Cette reconnaissance constitue le premier principe permettant d'assurer la sécurisation culturelle. Or, le projet de loi 32 faillit à reconnaître ses droits, ce qui permet de douter du sérieux de cette démarche. Les organisations autochtones comptent évidemment se faire entendre lors de l'étude du projet de loi en commission parlementaire, mais pour paraphraser QS, il semble bien que ce projet de loi soit un autre rendez-vous manqué de la part de la CAQ, et je dirais même plus que la CAQ a l'air de vouloir noyer le poisson.
Oui, ben oui, on s'en doute, mais je sais pas, est-ce que les communautés, les représentants sont invités au moins en commission
parlementaire? Oui, ils vont être invités, ils n'ont pas été consultés de toute façon sur le projet de loi, donc
on leur met ça d'en face. Puis,
effectivement. Il y a l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, par contre, qui, lui, a plus l'air de vouloir passer de la parole aux actes. Bon, déjà, Loïc reconnaît l'existence du racisme systémique dans le milieu de la santé. Donc, on peut pas dire qu'il ralentit le groupe, contrairement à la CAQ. Loïc a récemment mis sur pied un comité qui se compose de 5 membres, dont 3 qui sont issus des communautés autochtones du Québec, et qui a pour mandat de proposer des actions concrètes pour que les Autochtones soient traités aussi bien que les non-Autochtones. Parmi les actions envisagées, on parle de implanter des nouvelles formations, encore une fois, des ateliers de sensibilisation, implanter aussi d'autres agents de liaison autochtones, comme ça a été fait à l'hôpital de Joliette, d'alléger aussi le processus de plainte et leur suivi, etc. Et l'autre mandat du groupe est d'évaluer les retombées des actions qui ont découlé de l'énoncé de position qu'a pris Loïc il y a 2 ans et qui vise à améliorer les soins des membres aux Premières Nations et aux Inuits. Donc, on va suivre ce dossier-là à la réouverture de la session parlementaire à l'automne.
Oui, vraiment, l'Ordre a vraiment une attitude beaucoup plus sérieuse que le gouvernement.
Oui, c'est ça. Ils veulent vraiment...
Ils veulent des résultats.
Le mettre en pratique, c'est ça. Sinon, difficile de pas, comme je le dis en intro, de pas aborder les feux de forêt qui se poursuivent un peu partout au Québec, même si avec moins d'intensité. Les médias traditionnels ont largement couvert les évacuations dans les villes et les conséquences pour les commerces et surtout pour les industries extractives, industrie minière et forestière. Mais on a peu parlé des conséquences pour les collectivités autochtones, elles qui se trouvent souvent dans des régions éloignées, voire des territoires très difficiles d'accès. Par exemple, il y a plusieurs camps qui se trouvent dans des territoires ancestraux qui ne leur sont plus accessibles ou ont carrément été détruits par le feu. Puis pour les personnes autochtones, c'est une partie de leur culture qui est touchée, leur identité même, puisque ces endroits-là servent entre autres à transmettre les savoirs de génération en génération. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, je cite Paul Dixon, qui est un homme de 65 ans de la communauté Cree de Waswanipi, qui est situé à 300 km au nord-est de Val-d'Or, qui était en entrevue à Radio-Canada. Il dit « Chez les Cris, mon adresse principale, ma première maison, c'est mon camp, car mes ancêtres y sont enterrés, mon père y est né. Ma résidence secondaire, c'est dans la communauté. Et s'il n'y a plus d'animaux, alors je ne suis plus un Cri. » Parce qu'il y a évidemment aussi la perte des animaux en forêt par la perte d'habitat. Et à cette perte-là s'ajoute le problème des assurances. C'est que beaucoup de personnes autochtones n'en ont pas des assurances, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer les primes, qui peuvent s'élever jusqu'à 500 $ par mois par maison, ou parce qu'elles se font carrément refuser par les compagnies pour toutes sortes de raisons. Elles se font dire, par exemple, que leur communauté n'a pas de service d'incendie digne de ce nom, que leur maison ou leur camp est trop loin de la bouche d'incendie, ou que les pompiers sont trop éloignés et donc le temps qu'ils arrivent, il resterait plus rien à sauver.
Mais il n'y a pas de racisme systémique au Québec.
Non. Mais le principal obstacle qui est plus profond que ça, c'est l'acte de propriété comme tel. Okay. C'est que dans la grande majorité des cas, les logements appartiennent à la communauté, ce qui complique les démarches lorsqu'il s'agit d'assurer des maisons individuelles, parce que selon les normes du Bureau d'assurance du Canada, on doit pouvoir prouver être propriétaire et aussi avoir une situation financière, entre guillemets, satisfaisante. Donc, c'est pas gagné. Et selon un rapport fédéral, au cours des 20 dernières années, certaines communautés autochtones ont été évacuées jusqu'à 5 fois à cause des feux de forêt. Puis c'est sûr qu'avec les changements climatiques, ça va arriver de plus en plus souvent. Et donc, dans ce contexte-là, plusieurs demandent des investissements publics qui encouragent la construction d'infrastructures résistantes aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, mais aussi, et plus important, la création d'un programme d'assurance financé par l'État et qui serait spécifiquement dédié pour les logements des communautés autochtones.
Avec les spécificités locales, culturelles.
Exactement,
là,
c'est ça.
Puis en plus, je voyais qu'il faisait 30-35 degrés à Cujac ces temps-ci. Donc, même problème qu'on voyait en Russie avec le pergélisol qui fond, des maisons sur pilotis, du méthane qui sort. Donc, on a des nouveaux problèmes peut-être qui s'en viennent aussi.
Oui,
donc,
c'est ça. Puis c'est entre autres dans cette perspective-là qu'il y a la demande de création d'un espèce de fonds qui serait financé par l'État, justement, pour pallier à des problèmes structurels qu'on va voir de plus en plus arriver.
Effectivement. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève. C'était un portrait général très
complet. Oui, c'est ça.
un peu pessimiste, mais bon. On va changer complètement d'univers. On s'en va en pièce musicale déjà avec une pièce africaine avec le groupe qui s'appelle Nakimembe Amber Group.
Pilar, côté délicat.
Une pièce qui est actuellement palmarès Globe et, semble-t-il, Electro de choc, la pièce 160 ou 160 de Naki Membe Empire Group en collaboration avec Gabber Modus Operandi et Waono. C'est un collectif de l'Ouganda, parmi les derniers musiciens à performer encore avec un amber, qui est une sorte de gros xylophone traditionnel qui se joue à plusieurs mains et même parfois à plusieurs pieds, s'il est directement sur le sol. Ce qu'on vient d'entendre provient de leur album éponyme tout récemment sorti et c'est bien assaisonné de plusieurs couches de distorsion et de sonorités électro. Naki Membe Empire Group aux Apatrides. Mathieu, maintenant, ma compagnie, on te retrouve dans 2-3 minutes.
Oui,
Mathieu.
Oui, oui.
Je profite de cette musique africaine pour vous donner quelques nouvelles du fameux accord Royaume-Uni-Rwanda sur la sous-traitance des migrants, si on peut appeler ça comme ça. Mais juste avant, je vous parle du Malawi qui durcit de plus en plus ses politiques migratoires et frontalières et dont les relations avec le Rwanda sont actuellement en train de se corser. Situation un peu complexe, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer, si j'ai bien compris moi-même, évidemment.
On va te dire ça après.
Le gouvernement, merci Jacques d'avoir mon évaluation, le gouvernement malawite a décidé de révoquer la citoyenneté à 230 réfugiés rwandais avec des soupçons de falsification de papiers. Et en même temps, parallèlement, le Rwanda demande l'extradition de 55 ressortissants rwandais qui se trouvent actuellement au Malawi. Des personnes qu'on souhaite juger dans le cadre des suites judiciaires du génocide, parce que oui, il y a encore des enquêtes qui ne sont pas complétées et même des nouvelles enquêtes 30 ans après les événements. Tout ça se passe dans un climat de peur, des arrestations de masse, des raids policiers en pleine nuit, des confiscations de documents, d'ordinateurs, de téléphones, des détentions arbitraires. La police malawite semble un peu profiter de cette demande du gouvernement rwandais pour réprimer et terroriser la communauté rwandaise dans son ensemble, un peu au hasard et à l'aveuglette.
Okay.
On en profiterait aussi au passage pour faire peur aux réfugiés burundais et congolais qui vivent souvent dans les mêmes installations que les Rwandais. Au total, après avoir semé la panique dans des communautés entières pendant des semaines et révoqué des centaines de citoyennetés, seulement 5 personnes d'intérêt ont été retrouvées et rapatriées vers le Rwanda pour être jugées. Maintenant, je vous avais promis une mise à jour sur le fameux accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni.
Ben oui, ben oui.
Il se passe, c'est vraiment toute une saga, cette histoire-là. Donc, accord qui prévoyait qu'on envoie des demandeurs d'asile, peu importe de leur pays d'origine, au Rwanda plutôt que de les héberger temporairement au Royaume-Uni. On apprenait récemment que ça allait coûter beaucoup plus cher que prévu, donc 200 000 euros par demandeur d'asile versus environ 125 000 euros pour les héberger au Royaume-Uni. Le but de cet accord-là se voulait dissuasif. On disait que ça allait décourager les traversées de la Manche, mais c'était surtout pour faire des économies. Alors, ben, c'est complètement raté. Et même la préférée de Marie-Ève, Suella Braverman.
Braverman,
c'est un personnage historique.
Écossais, oui, oui, oui.
Donc, Suella Braverman, qui est ministre britannique de l'Intérieur, elle ne sait pas trop quoi dire. Elle a dit quelque chose comme « C'est mieux d'essayer des affaires que de rien faire pantoute. »
Ah, donc, c'est bon, ça.
Ouais, sauf que des fois, c'est mieux de rien faire.
Fermez ta gueule.
Mais faudrait... Les deux. L'accord était suspendu en raison de contestations judiciaires. Une décision a été rendue la semaine dernière et finalement, la justice britannique. Merci Mathieu, a décrété que l'accord est illégal pour la simple et bonne raison que le Rwanda ne peut être considéré comme un pays sûr puisqu'on craint qu'une fois rendu au Rwanda, les personnes soient encore une fois expulsées vers les pays limitrophes ou vers leur pays d'origine.
Ben oui.
On juge aussi que les garanties offertes par le gouvernement rwandais quant au bon traitement des demandeurs d'asile, notamment ce qui a trait à la torture, elles sont pas vraiment crédibles.
Ben non.
Donc, si les conditions sécuritaires viennent à s'améliorer au Rwanda, ce qui n'arrivera pas l'année prochaine, le gouvernement pourrait sûrement faire appel de la décision et le premier ministre a déjà évoqué cette possibilité. Il pense même saisir la Cour suprême. Donc, le jugement vient quand même, et ça, c'est un peu malheureux, confirmer que c'est légal de sous-traiter l'hébergement des demandeurs d'asile à des milliers de kilomètres dans un tiers pays, en attendant que les demandes soient traitées. C'est juste qu'il faudrait que ce soit fait avec des pays jugés sécuritaires. Donc, les ONG sont quand même contentes du jugement. Il y a Yasmine Ahmed, la directrice de Human Rights Watch, qui a dit, et je la cite, qu'il s'agit d'une rare bonne nouvelle dans le sinistre paysage des droits humains au Royaume-Uni. Donc voilà pour cette mise à jour accord Royaume-Uni-UK, Royaume-Uni-Rwanda, Mathieu. Mathieu, petite transition, on s'en va vers les îles Canaries, puis ensuite tu nous amènes vers l'Italie, je crois.
Oui, on reste au sud de l'Équateur, si je peux me permettre.
Tout à fait. À quelles Canaries?
À peu près, ouais, c'est ça. Oui, une mise à jour sur les Canaries, parce qu'on en parle on en parle de temps en temps à l'émission, les médias en parlent un peu, mais c'est comme une espèce de cas à part, mais en même temps qui relie à toute la logique de la Méditerranée puis de l'Atlantique.
Ben, c'est une route vers l'Europe, là.
Exactement, qui est un peu, qui va pas vers l'Europe au début, mais qui s'en va finalement en Europe, parce qu'on sait que, bon, c'est les îles Canaries sont à l'Espagne. Et donc, récemment, il y a eu beaucoup d'actions. Entre le 10 et le 12 juin, plus de 330 migrants ont débarqué dans l'archipel espagnol, originaire pour la plupart du Maghreb et un peu de l'Afrique subsaharienne.
En deux jours. Okay.
En deux, trois jours et demi, je te dirais. Faut savoir qu'une fois secourus en mer, les exilés restent généralement peu de temps dans les centres de premier accueil de l'archipel actuellement. Au bout de quelques jours, ils sont transférés par avion sur la péninsule ibérique, donc en Espagne. Mais le 12 juin, le Conseil de l'Europe a dénoncé des lacunes dans le traitement des migrants qui arrivent aux îles Canaries, notamment ce qui concerne l'accès à une assistance juridique pour les victimes de traite. Le groupe d'experts du Conseil de l'Europe contre la traite des êtres humains, le GRETA, déplore que les autorités espagnoles n'aient pas pris de mesures pour résoudre cette situation dans aucun de ces trois territoires d'arrivée que sont les Canaries, Ceuta
et Melilla.
Et Melilla, voilà.
Peut-être certaines îles de la Méditerranée aussi, j'imagine.
Ben, en tout cas, c'est vraiment les cas connus pour l'Espagne. Donc, le GRETA avait par exemple indiqué que les migrants arrivés aux Canaries en 2020 n'avaient pas pu bénéficier de conseils d'un avocat, la corporation ayant été empêchée d'accéder au centre d'accueil sur les îles. Même après avoir obtenu l'autorisation d'y entrer après de longs mois, les experts ont affirmé qu'il n'y avait pas assez d'espace pour les rencontres individuelles et qu'il y avait un grand manque d'interprètes aussi. Okay. L'étude déplore le manque d'informations fournies aux mineurs à leur arrivée en Espagne. Le GRETA exhorte les autorités à améliorer les procédures d'identification, notamment pour les mineurs non accompagnés, et à multiplier les places dans des hébergements sûrs et spécialisés en les dotant de professionnels formés. Il faut savoir, cette année, les arrivées de migrants par la mer en Espagne ont baissé de près de 27% pour l'ensemble des endroits. Aux Canaries, ces débarquements ont diminué de moitié.
Okay.
Entre le 1er janvier et le 31 mai, plus de 4400 personnes sont arrivées dans l'archipel contre 8200 à la même période en 2022.
Quand même,
mais là, ça recommence actuellement beaucoup, comme je le disais. Sinon, les Canaries vont installer sur les avions et navires des sauveteurs espagnols des capteurs capables de détecter automatiquement les personnes tombées à l'eau de jour comme de nuit.
Okay.
Le service de sauvetage espagnol appelé Salvamento Marítimo, va tester un nouveau système pour secourir les personnes en détresse en mer. Les capteurs permettront par ailleurs une meilleure coordination entre les services de sauvetage. Actuellement, les informations collectées par les sauveteurs qui se rendent vers un bateau en détresse ne sont pas transmises en temps réel en raison de l'absence de réseau en haute mer. Les données ne sont utilisables que lorsque les sauveteurs reviennent à leur centre de coordination. Le projet ISAR, qui s'appelle, a été développé pour un montant total de 20 millions d'euros. Sur cette somme, 85% du budget provient du Fonds européen de développement régional, le FEDER. Donc, c'est même pas l'Espagne qui a payé elle-même. Sinon, deux semaines plus tard, les autorités espagnoles ont annoncé avoir secouru au moins 350 migrants en 24 heures dans 5 embarcations dérivant au large des Canaries, au lendemain d'un naufrage qui avait fait au moins 2 morts parce qu'il y a beaucoup disparus. Faut savoir aussi que 86 migrants venus d'Afrique subsaharienne ont été secourus cette semaine lundi.
Okay.
Ça a donné lieu à un branle-bas de combat parce que plusieurs embarcations qui sont recherchées. Selon l'ONG Caminando Fronteras, une embarcation est partie le 27 juin de Cafoutine au Sénégal avec, on évalue 200 personnes à bord. Deux autres embarcations parties du Sénégal le 23 juin avec chacun 120 personnes sont toujours disparues aussi.
Donc on n'a aucune trace, on n'a aucune nouvelle.
C'est ça, il y a 86 qui ont été secourus lundi, mais depuis 23 juin, il y a 3 autres embarcations qui ont disparu là, entre le Sénégal et les îles Canaries. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant.
Je rappelle qu'on est dans l'Atlantique. C'est des conditions pas mal plus périlleuses que dans la Méditerranée.
C'est pas très loin, mais ça bouge beaucoup. La route migratoire vers les îles est particulièrement empruntée ces temps-ci en raison du durcissement des contrôles en Méditerranée, comme on parle souvent. Selon les chiffres de l'OIM, 126 migrants sont morts ou ont disparu dans la traversée vers les Canaries de janvier à juin de façon officielle, mais Caminando Fronteras estime ce chiffre à 778 morts ou disparus depuis le début de l'année. Pour l'Italie, mais rapidement, 2 nouvelles d'intox. C'est l'Italie, hein? C'est la commedia dell'arte. Polémique après l'arrestation de 15 migrants cachés sur un navire de commerce. Les forces spéciales italiennes sont intervenues sur un navire de commerce turc au large de Naples. Ils ont arrêté 15 exilés cachés dans la cale du bateau. Les premiers éléments de l'enquête contredisent la version initiale des autorités, selon laquelle ces personnes auraient tenté de séquestrer l'équipage pour détourner le cargo. Parmi ces 15 exilés se trouvaient 13 hommes, dont 2 mineurs et 2 femmes enceintes. Fait que ça commence comme ça. Le soir même, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto...
Ah, on n'entend pas souvent parler.
Ben oui, du parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, s'est félicité de l'action des agents qui ont permis de capturer ceux qu'il désigne comme des pirates. Ah. Pourtant, pas de violence ni de kidnapping, encore moins de détournement ou de piraterie. Les premiers éléments de l'enquête menée par le parquet, après l'audition des exilés et des membres de l'équipage, infirment les déclarations du ministre. Ils étaient dissimulés dans l'un des camions que transportait le navire et ont fait usage d'un objet coupant pour percer la bâche afin de prendre l'air. Les images des caméras de surveillance sur le bateau confirment leurs propos, parce qu'il y avait une rumeur qu'ils étaient armés, là, puis tout ça avec des sabres et des...
Des sabres?
Ah, ben non, mais j'exagère, mais des longs couteaux.
des machettes.
Ouais, c'est ça, genre. Les soldats italiens ont affirmé que les exilés n'ont posé aucune résistance, se sont montrés coopératifs. Pointé du doigt par certains médias italiens en raison de son récit erroné, le ministre Crosetto a riposté et publié une note interne à son ministère pour tenter de prouver le détournement. Sauf qu'on peut néanmoins lire à la fin de ce document que l'arrestation des exilés cachés sur le bateau n'a à aucun moment nécessité l'emploi de la force. Pas pire, hein?
Ben oui, on essaie mise en scène. C'est comme un narratif, c'est des méchants.
Et l'autre, ben c'est rapidement, écoute, c'est encore plus absurde. Depuis la mi-juin, plusieurs utilisateurs de Twitter affirment, vidéo à l'appui, qu'une armée de 500 000 migrants sera en route vers l'Italie depuis la Libye.
C'est une grande embarcation.
Je sais pas s'ils volent, d'ailleurs, pour se rendre. Initiée par un compte italien d'extrême droite, cette rumeur utilise en fait des vidéos qui montrent l'expulsion de migrants irréguliers par les forces de sécurité libyennes au début du mois de juin de cette année. Des images, mais il y a eu une enquête, là, entre autres d'InfoMigrants, mais de plein de médias, des images qui ont bien été tournées en Libye, mais qui montrent en fait, pour de vrai, la capture et l'expulsion de migrants par les forces de sécurité locales en Libye. Un article du média Libya News 24, en date du 1er juin, affirme dans son article que le résultat du travail de la force de sécurité conjointe dans l'expulsion de centaines d'immigrants de Musaïd, qui est à l'est de la Libye. Okay. On y apprend que les actions filmées dans les différentes vidéos appartiennent en fait à une opération de traque des migrants irréguliers dans la région afin de les reconduire aux frontières libyennes et de démanteler les réseaux de passeurs. Les opérations de Musaïd ont jusqu'à présent libéré 1500 immigrants des entrepôts de trafic d'êtres humains, genre de prisons fermes, dont on a souvent parlé en Libye, où on exploite les migrants. Parmi eux se trouvaient 700 Égyptiens qui ont été renvoyés dans leur pays par le point de passage entre Musaïd et Saloum. On retrouve d'autres vidéos montrant la colonne de migrants, entre guillemets, conduite vers le point de passage vers l'Égypte, et aussi d'autres images qui avaient été utilisées. C'est d'autres migrants de d'autres pays qui ont été amenés dans des centres pour être envoyés, évidemment, dans leur pays d'origine. Donc, ça, c'est la dernière mise en scène des complotistes et de l'extrême droite italienne. 500 000 migrants qui marcheraient vers l'Europe. Ça a beaucoup circulé.
Oui, c'est comme l'Armada ou le jour J, là, je ne sais pas trop.
Mais c'est vraiment des fausses images.
Mais c'est de l'intox gouvernemental. Tu sais.
Non, pas celle-là.
Non, pas celle-là, OK.
Ça, c'est Fratelli d'Italia ont dû le relayer, là, mais ça vient de sites en ligne. Là,
des complotistes.
De groupes d'extrême droite. Donc, voilà pour la Brillante Italia.
Merci beaucoup, Mathieu. Donc, quelques notes de musique. Puis on reste dans l'international aux apatrides. Donc, moi, j'aimerais vous parler de Willem Alexander, que vous connaissez sûrement, Marie-Ève, Mathieu.
Ça sonne flamand, ça.
T'es pas loin. C'est le roi des Pays-Bas.
C'est ça, flamand.
Oui, néerlandais.
Néerlandais,
exactement.
Ah,
voilà. Après les excuses officielles de l'État hollandais, il a de son côté présenté ses excuses personnelles pour l'esclavage dans les colonies du Suriname en Amérique du Sud et dans les îles caribéennes d'Aruba, de Bonaire et de Curaçao. Esclavage dont sa famille, la dynastie de la maison d'Orange-Nassau, est l'un des principaux architectes et bénéficiaires des centaines de millions estimés en argent actuel, voire des milliards. Plus de 600 000 individus ont été faits esclaves au 17e et 18e siècle, la plupart déportés d'Afrique vers les colonies dans les Amériques. Donc voilà, c'est très bien, ces actes de contrition, quelques larmes ont été versées devant les caméras. Mais la vraie question, c'est les réparations, et on est pour l'instant très avare de commentaires sur cette question-là, autant au niveau de la couronne des Pays-Bas que du Parlement.
Ouais.
Parlement néerlandais, dont la coalition qui était au pouvoir s'est effondrée cette semaine en raison d'une proposition de politique beaucoup plus dure envers les réfugiés. Proposition du premier ministre très conservateur qui a tout simplement pas passé auprès de ses partenaires de coalition, qui sont la plupart un peu plus centristes ou modérés que lui. Le premier ministre Mark Rutte a démissionné, ce qui automatiquement met un terme à la coalition en place, qui était quand même assez diversifiée dans le spectre politique. Il y avait toutes sortes d'aberrations dans cette nouvelle mouture de politique migratoire, mais ce qui a vraiment fait déborder le vase, c'est la proposition d'une période d'attente de 2 ans avant que les enfants de réfugiés puissent venir rejoindre leurs parents aux Pays-Bas. Ce qui a été jugé non seulement contraire à toutes les conventions, mais carrément inhumain et cruel. Donc, gouvernement intérimaire dont la composition va bientôt être connue et élection générale à venir en novembre aux Pays-Bas. On verra si le pays résiste aux poussées d'extrême droite qu'on voit un peu partout en Europe.
Ah ben, c'était déjà, ça fait déjà un petit bout de temps que le Parti pour la liberté aux Pays-Bas.
Coalitionné avec, oui, même, je pense, des Verts, puis un peu comme on voyait en Allemagne, par exemple.
Mais ils ont quand même les coups des franches.
Oui, je te l'accorde. Donc, Marie-Ève, tu nous ramènes vers l'Afrique, vers la Tunisie.
Oui, où le balai diplomatique à propos de l'immigration entre l'Union européenne, ses pays membres et la Tunisie se poursuit.
Ah bon?
Oui. Lors d'une visite de 2 jours à Tunis en juin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui était accompagnée de la présidente du Conseil italien, la formidable Giorgia Meloni, et du président néerlandais, hein, tout est dans tout, Mark Rutte.
Des grands prix Nobel.
Bref, la Commission européenne s'est engagée à proposer une aide financière immédiate de 105 millions d'euros, soit 4 fois plus que ce que reçoit actuellement la Tunisie. Aide qui pourrait atteindre 900 millions d'euros à long terme en échange que la Tunisie renforce sa lutte contre l'immigration irrégulière. La Commission européenne souhaite que cet accord-là, qui porte aussi sur le renforcement des investissements en Tunisie, soit signé d'ici au prochain sommet européen là, qui doit avoir lieu à la fin du mois. Mais bon, c'est loin d'être gagné puisque les deux parties ont une lecture un peu différente de cette visite diplomatique parce que, ben, si du côté européen, il s'agit d'un, et je cite, « excellent accord sur l'immigration », du côté tunisien, le son de cloche est tout autre. La Tunisie refuse d'être, je cite, « le garde-frontière de l'Europe ». Il y a également le Forum tunisien des droits économiques et sociaux qui a été plus loin en dénonçant dans un communiqué la visite européenne comme étant un chantage et un marchandage pour donner de l'argent à la Tunisie en échange d'une surveillance renforcée de ses frontières.
Je voulais juste rappeler qu'il y a beaucoup plus de migrants qui partent de Tunisie depuis peut-être 2-3 ans.
Effectivement. Et quelques jours plus tard, ben, c'était au tour de la France, par la voix de son ministre de l'Intérieur, l'infâme Darmanin, d'annoncer le déblocage d'une aide de 25,8 millions d'euros pour empêcher les départs et favoriser les interceptions en mer, Les millions d'euros pleuvent donc sur la Tunisie. Mais bon, en décidant d'équiper et d'entraîner les gardes frontières tunisiens, la France fait le choix de l'approche sécuritaire dans un pays, on le sait, en plein virage autoritaire, alors que le président Kais Saied s'est accaparé tous les pouvoirs au cours des 2 dernières années. Mmh. Et ben, curieusement, la question de la situation des droits humains et des libertés individuelles a totalement été évitée lors de ces rencontres.
C'est un oubli. Là.
C'est vous dire.
Ils n'ont pas eu le temps.
Ben non.
En réponse à cette annonce-là, Saïed a réitéré son refus de jouer le garde-frontière de l'Europe, mais aussi d'être, et je cite, un pays d'installation des migrants. C'est que, comme je vous en parlais à la dernière émission, le nouveau pacte migratoire européen prévoit l'expulsion de migrants vers des pays tiers sûrs qui pourraient éventuellement inclure la Tunisie, laquelle est un lieu de transit pour de nombreux, comme tu le disais, Simon, subsahariens qui recherchent à rejoindre l'Europe. Or, les autorités de Tunis ont toujours refusé d'accueillir ces ressortissants non tunisiens jugés indésirables en Europe. Le hic, ben, c'est que le président tunisien a beau bomber le torse, la réalité vient non seulement le rattraper, mais le contredire. Parce que, Simon, comme tu disais, ben, plus de 23 000 personnes parties depuis le littoral tunisiens ont déjà été empêchés de rejoindre l'Italie par la garde nationale maritime au cours des 5 premiers mois de l'année seulement, soit 3 fois plus que sur la même période l'an dernier. Donc, qu'il le veuille ou non, ben, la Tunisie joue déjà un rôle très actif dans la lutte contre l'immigration vers l'Europe.
Ouais. Elle essaie de retenir ses propres ressortissants aussi qui tentent de fuir, les Tunisiens. Qui embarque même par centaines.
Oui, ben présentement, c'est beaucoup un pays de transit pour le Maghreb, ouais, subsaharienne.
C'est ça.
Puis ben aussi, comme je disais, à la fin du mois, Saïd a aussi réitéré son opposition à la présence de migrants subsahariens dans le pays. Je cite, « Mais pourquoi choisissent-ils Sfax? » C'est la question qu'il a posée dans un communiqué. Alors que la saison estivale propice au départ débute et que la ville est devenue le point de ralliement des migrants en partance vers l'Europe, le président est allé même jusqu'à parler de migrants qui terrorisent les citoyens tunisiens.
C'est toujours ça, son très...
C'est son leitmotiv.
Ils violent nos enfants, nos chèvres.
Et ouais. Bien, cette nouvelle déclaration-là est survenue alors que les rassemblements anti-migrants organisés par des habitants et une frange de l'opposition ont repris à Sfax. C'est sûr que c'est rien pour aider. Avec des slogans comme « Protéger Sfax »,« Expulsion »,« Sfax n'est pas un point de passage », etc., on rapporte de plus en plus d'accrochages et d'affrontements entre Tunisiens et subsahariens. Des messages postés sur les réseaux sociaux relaient même des altercations ultra-violentes entre Africains et subsahariens, notamment à coups de machette. À la fin mai, il y a un Béninois de 30 ans qui a été poignardé à mort dans son habitation par un groupe de jeunes Tunisiens. Or, les discours anti-migrants et les violences de rue ben, accroissent le nombre de départs vers l'Europe. C'est donc le chien qui se mord la queue.
Climat donc très tendu actuellement en Tunisie.
Très, très tendu. Et comme je le disais, le président Saïd ne fait rien pour arranger les choses. Au contraire, il met de l'huile sur le feu.
Et là. Donc, on va aller en musique là-dessus. On va écouter un band qui s'appelle Mandy Indiana. Toujours aux apatrides anonymes, on entendait une autre pièce qui est au palmarès, palmarès franco et électro aussi, semble-t-il, encore une fois, de choc. La pièce Drag Crashed du quatuor noise rock britannique Mandy, Indiana. Donc non, ils ne viennent pas de l'Indiana, mais de Manchester en Angleterre. C'est de leur premier album complet tout récemment sorti qui s'appelle I've Seen a Way. La chanteuse est une Parisienne d'origine qui vit maintenant à Manchester avec les autres musiciens et les textes sont complètement en français. Je rappelle le nom du band, Mandy Indiana. Maintenant, pour des enjeux Québec-Canada en immigration avec Mathieu dans deux minutes à peu près, quelques nouvelles de Corey Kevin Selig, cet homme tué par la police à l'île Bizarre dans l'ouest de Montréal. Les faits remontent à il y a 6 ans. Il y a plein d'éléments incriminants qui, pour l'instant, n'ont mené à aucune accusation criminelle. Si on veut résumer ce qui s'était passé, M. Selig est en état d'ébriété, il veut prendre sa voiture, ses parents tentent de le dissuader sans succès, donc ils appellent au 911 pour avoir de l'aide. Quand la police arrive, M. Selig s'est calmé, ne souhaite plus prendre sa voiture, bref, la situation s'est stabilisée complètement, mais la police rentre quand même de force dans le domicile et s'en prend physiquement à M. Selig d'une telle brutalité qu'il en est mort. Il n'y a pas eu de balles tirées dans ce cas-là, donc c'est vraiment des coups poussés, là, c'est ça. Donc, le coroner constate plusieurs traumatismes graves alors que lui n'a porté aucun coup aux policiers et policières qui l'ont attaqué. Et le coroner juge, tout comme le comité en déontologie d'ailleurs, que des accusations criminelles devraient être portées contre les agents et agentes qui ont sauvagement attaqué et tué M. Selig. Ce que le Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, notre instance préférée, et le directeur, ils sont tellement indépendants, et le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, ont toujours refusé de porter des accusations malgré les recommandations du coroner et du comité en déontologie. Le DPCP, il faut dire, il se base sur le rapport tout croche du BEI pour justifier sa décision de ne pas poursuivre. Donc, la famille a fait une conférence de presse il y a quelques semaines pour mettre en lumière toutes ces contradictions et réclamer justice, et surtout dénoncer le travail bâclé du BEI. Donc, imaginez, en tant que seul témoin direct, les parents, il a fallu qu'ils se battent pour être entendus par les enquêteurs, ce qui a finalement été fait de manière très rapide et bancale. Le fameux BEI avait été créé justement pour éviter qu'un corps de police enquête sur lui-même, mais on sait qu'il est encore composé d'anciens agents du SPVM. Et dans ce cas-ci, c'était une enquête sur le SPVM. L'île Bizarre fait partie du territoire du SPVM, donc le problème n'est vraiment pas réglé. J'en profite pour vous rappeler l'existence d'un rapport de la Ligue des droits et libertés dont on a déjà parlé, on avait reçu quelqu'un à l'émission, qui date d'il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité. Ça s'appelle « Regard critique sur le Bureau des enquêtes indépendantes » à relire, donc, finalement.
Oui, on avait reçu quelqu'un de la Ligue à l'époque. Puis, d'ailleurs, il y a un projet de loi sur la table actuellement, une petite réforme de la police, petite, moyenne.
Mais pas du BEI aussi?
Non, le BEI, il n'y a rien, mais il y a beaucoup de groupes qui demandent que le BEI soit réformé en même temps.
on en a la démonstration avec cet exemple-là.
Exactement, ouais.
Donc, bonne chance à la famille de Corey Kevin Selig dans son appel au ministre de la Justice, le très progressiste Roland Barrette. Pour enfin obtenir une véritable enquête impartiale, je pense que la famille y a droit, ce serait la moindre des choses en démocratie. Et à ma connaissance, plus de 3 semaines après la conférence de presse, le ministre, après avoir refusé en mai cette idée d'un comité indépendant, il n'a même pas daigné commenter davantage. Donc, Mathieu, il faudrait que je te laisse un peu de temps. On reste Québec-Canada. De rien. C'est mon travail de aussi distribuer le temps de
l'antenne. Oui, animateur.
Tu nous parles d'accueil de réfugiés afghans, je crois, de réunification familiale aussi.
Exactement. Quelques nouvelles dans l'actualité immigration Québec-Canada. Commencer avec, comme suit, les conjoints des enfants et les parents d'immigrants récents pourront rejoindre leurs proches au Canada plus rapidement, alors que le gouvernement passe à un nouveau système pour approuver les demandes de réunification familiale, a annoncé le ministre de l'Immigration, Fraser.
Au fédéral,
oui, évidemment. Actuellement, les membres de la famille qui souhaitent déménager au Canada peuvent demander à rejoindre leurs parrains, peu importe c'est qui le membre de la famille, en attendant l'approbation de leur résidence permanente. Mm-hmm. Mais ils se voient souvent refuser le visa nécessaire parce que les autorités craignent qu'ils ne partent pas une fois que le visa aura été expiré et qu'ils n'auront pas été acceptés, finalement.
Ouais.
Le ministre espère que le délai d'exécution avec ce nouveau système sera désormais aussi court que 30 jours. Bonne chance, hein? Le nouveau système examinera la demande de la personne et déterminera la probabilité qu'elle obtienne la résidence permanente. Ceux qui ont une forte probabilité seront placés dans une catégorie qui accélère l'obtention de leur visa temporaire, hein? C'est quand même particulier. Ouais. Jusqu'à présent, le taux d'approbation des demandes dans le cadre du projet pilote du nouveau système est de 98% selon le ministre. L'utilisation accrue de l'analyse avancée a cependant soulevé des inquiétudes quant au type de données utilisées, au type de données historiques utilisées pour orienter la prise de décision par une machine et si cela pouvait discriminer ou désavantager certaines familles en fonction de leur origine ou d'autres caractéristiques, ont soulevé les avocats en immigration.
On se doute bien que ça va arriver.
T'es les biais au fédéral, on en a parlé souvent, là, en immigration. Fait que le ministre a également annoncé que les conjoints et les enfants à charge titulaires d'un visa temporaire recevront aussi des permis de travail ouverts qu'ils présentent leur démarche avant ou après leur arrivée au Canada. Donc, on veut vraiment accélérer cette partie-là. Il y a un gros, gros passif. Sinon, ben, le ministre Fraser a indiqué qu'il prévoyait dévoiler prochainement le programme très attendu destiné à accorder la résidence permanente aux Ukrainiens qui ont déjà de la famille au Canada, donc on parle de réunification. Mm-hmm. Cependant, un programme similaire pour les autres Ukrainiens qui n'ont pas de famille ici devra attendre encore un an, voire davantage. Okay. On rappelle que plus de 8 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. L'an dernier, le Canada avait pris la décision inhabituelle d'offrir l'asile temporaire à un nombre illimité d'Ukrainiens qui fuyaient la guerre, bien qu'ils ne bénéficient pas du même statut ni du même soutien que les réfugiés permanents. Ils sont autorisés à travailler et à étudier au Canada pendant une période maximum de 3 ans, qui peut être aussi renouvelée.
Ce qui n'est pas le cas...
Pour les autres programmes, pour les autres pays. Ottawa a reçu plus d'un million de demandes de visa temporaire d'urgence. Au 30 mai dernier, 747 000 d'entre elles avaient été approuvées. Hein, ça roule. Et 230 000 personnes de l'Ukraine étaient déjà arrivées au Canada. Mais là, il y a une contrepartie, évidemment, quand on compare avec les autres. Je vous lis un extrait d'un homme d'origine afghane. « En tant que Canadien, j'apprécie ce que le gouvernement fait pour les Ukrainiens, mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi ma famille et moi n'avons pas droit aux mêmes égards, pourquoi mes droits constitutionnels sont bafoués. Est-ce que c'est parce que nous avons la peau brune? Hein? » John Doe 1, c'est
son alias,
parce que bon, il veut pour les questions de sécurité en Afghanistan. Et l'un des deux plaignant dans une poursuite contre le fédéral, donc contre le gouvernement canadien devant la Cour fédérale. Une poursuite pour discrimination, pour dénoncer le deux poids deux mesures dans l'architecture des programmes d'immigration destinés aux Afghans et aux Ukrainiens. Citoyen canadien d'origine afghane, il a répondu à l'appel d'Ottawa qui cherchait des conseillers pour guider ses interventions dans le pays d'Asie centrale pendant l'intervention occidentale. Donc, depuis août 2021, il tente donc par tous les moyens de faire venir au Canada des membres de sa famille élargie et ça ne marche pas. Le programme que le gouvernement canadien a mis sur pied pour les Afghano-Canadiens qui sont dans la même situation que lui, seulement 45 personnes, est trop restrictif et ne lui permet pas de faire venir sa sœur et ni son demi-frère.
C'est donc vraiment deux classes de demandeurs d'asile.
Ah oui, 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 puis c'est la même époque en plus, c'est la même année, c'est ça qui est drôle, 2021-2022, oui. Le gouvernement Trudeau a promis d'accueillir au moins 40 000 Afghans après la chute du gouvernement de Kaboul. Un premier programme est destiné aux un premier programme est destiné aux Afghans qui ont travaillé pour le Canada et à leurs proches, un autre à l'immigration humanitaire, et le troisième vise les familles de citoyens canadiens d'origine afghane, comme celle de John Doe, qui ont travaillé pour le gouvernement. En 22 mois, le Canada a ainsi accueilli 32 745 personnes, soit 90% de moins que le programme ukrainien.
Il semble qu'il y avait aussi une catégorie comme professeur ou fonctionnaire ou journaliste qui était menacé par le régime actuel.
Oui, c'est celui, j'imagine, humanitaire.
C'est ça.
Ça doit être celle-là, ouais.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais. Si la bureaucratie a été allégée au maximum pour permettre aux Ukrainiens de venir rapidement au Canada, le processus destiné aux Afghans est lourd, lent et semé d'embûches. Comment le ministre d'immigration justifie-t-il ce décalage? Il a répondu que les deux programmes n'ont pas le même objectif, que les Afghans que nous accueillons vont refaire leur vie ici et recevoir une résidence permanente, alors que les Ukrainiens, eux, ont un statut temporaire et vont retourner en Ukraine dès qu'ils en auront l'occasion.
Ce qui n'est pas nécessairement
non, clair. Parce qu'il y a un sondage qui a été fait auprès d'Ukrainiens arrivés au Canada depuis mars 2022 et 84% ont dit qu'ils souhaitaient rester au Canada. C'est assez clair.
Ben oui, leur pays est détruit, certaines régions complètement.
Les plaignants afghano-canadiens demandent dans leur poursuite que le gouvernement canadien mette fin à la discrimination en étendant le programme de visa ukrainien baptisé « Autorisation de voyage d'urgence » à tous ceux qui fuient les pays en guerre. Donc, c'est ça leur demande dans la poursuite en cour fédérale. Est-ce qu'il me reste une minute ou deux?
Une minute ou deux, oui, tu peux y aller.
Parfait. Un extrait de communiqué des organisations de défense des droits des migrants et des groupes de la diaspora sud-asiatique de partout au Canada demande à Sean Fraser, c'est vraiment ma chronique Sean Fraser, de mettre un arrêt définitif à l'expulsion.
On l'invitera la prochaine fois.
Oui, il est bon en français. Donc, on lui demande de mettre un arrêt définitif à l'expulsion d'un grand nombre d'étudiants internationaux d'origine indienne qui vivent en Ontario. Ces étudiants sont entrés au Canada comme n'importe quel autre étudiant international et ne devraient pas avoir à supporter le fardeau de la preuve à cause de fraudes commises par des consultants d'immigration et des recruteurs en éducation. Il y a eu un gros cas en Ontario. On a moins parlé ici. Là. Il y en a eu au Québec. Mm-hmm. Mais il y a vraiment des gens qui se sont fait vraiment avoir avec des faux papiers. Puis là, ils se font renvoyer. Le gouvernement de Trudeau a promis attendez, je me suis trompé de page. pendant plus de deux semaines, fin mai, début juin, les étudiants, leurs sympathisants et les membres des communautés ont organisé une occupation devant le siège de l'Agence des services frontaliers à Mississauga, en Ontario. Ça a duré deux semaines.
On n'a presque pas entendu parler de ça.
Non, c'est ça. Moi, j'ai trouvé aucun article en français, seulement ce communiqué-là. Okay. Bien que cette manif ait pris fin avec l'annonce le 14 juin d'arrêter les déportations des étudiants, ils continuent d'exprimer leurs inquiétudes quant aux prochaines étapes. Leurs demandes sont assez simples. Une solution permanente à la situation de ces gens-là qui ont été fraudés. Une annulation définitive des déportations et l'octroi d'un statut de résident permanent à tous ces étudiants-là qui ont été... c'est sûr qu'ils sont accusés de fraude, mais dans le fond, qui ont été exploités par des... consultants d'immigration puis des fausses universités puis ce genre de trucs-là, là, pour les faire venir ici pour étudier.
Sorte de fraude possible.
Exactement. Donc, voilà. Fait que ça se passe en Ontario. Et si je peux terminer...
Oui, rapidement.
Médecins du Monde a publié un rapport intitulé « Statut d'immigration précaire, santé précaire, ensemble pour la santé de toutes les femmes vivant au Canada, au Québec, pardon ». Ce rapport présente l'absence de couverture d'assurance pour les services essentiels de santé sexuelle et reproductive comme un enjeu majeur de santé publique et d'égalité des genres auxquels on doit répondre. Des milliers de femmes vivent ici, mais leur statut d'immigration précaire ne leur donne pas accès au régime public d'assurance maladie et d'assurance médicaments du Québec, ni au programme fédéral de santé intérimaire destiné seulement aux réfugiés et aux demandeurs d'asile.
Donc, ils tombent dans un vide. Peut-être répéter juste le nom du rapport.
Oui, bien, le rapport, c'est publié par Médecins du Monde. C'est sorti en juin, donc, 2023. Statut d'immigration précaire, santé précaire, ensemble pour la santé de toutes les femmes vivant au Québec. C'est disponible sur leur site.
Parfait.
Et ils ont fait un lancement, tout ça, mais il est intéressant. Je l'ai parcouru. C'est vraiment bien fait. Puis, vraiment, on en a parlé de la situation des femmes, entre autres, enceintes.
Oui, qui arrivent même à la frontière enceinte, des fois.
C'est ça.
Avec des très
mais il y a des milliers de femmes qui n'ont pas accès à des soins de santé, comme des hommes, mais dans ce cas-ci, c'est des soins de santé sexuelle et reproductifs.
Merci beaucoup, Mathieu.
Fait
donc,
plaisir.
On se rejoint dans un tout petit instant pour, la conclusion de l'émission. Avant de dire au revoir, je vous sers un mini agenda. Tout d'abord, soirée festive, partage solidaire des Luc Atikamekw. Lundi prochain, pour les gens qui nous écoutent en direct ou avant lundi, le 17 juillet, ça se passe donc lundi de 18h à 21h. Notez bien l'adresse au 1864 Préfontaine, juste au sud d'Ontario, dans Hochelaga.
À Montréal.
À Montréal.
Ben oui.
Oui, ben le quartier Hochelaga, je pense qu'il y en a juste un. atelier de danse, donc projection, présentation, discussion, aussi un souper moyennant contribution volontaire, mais tout le reste est gratuit. La thématique centrale, c'est les luttes actuellement menées par la communauté Atikamekw, des luttes sur les questions de droit et d'environnement principalement. Et on part de la question suivante. Les forêts flambent, on s'enflamme, quoi faire avec cette odeur de fin du monde? Il y a un lien Zoom pour qui veut assister à distance, donc je vous invite à trouver la page FB de l'événement qui s'appelle « Soirée festive, partage solidaire des Luc Atikamekw ». C'est lundi prochain et le courriel pour s'informer ou même pour faire des dons aux gardiens du territoire et le suivant. Association GTNA à gmail.com.
Il y a beaucoup de blocages qui vont rester de la part d'Atikamekw actuellement, c'est vraiment en lien avec ça.
Oui, c'est en lien avec ça. Donc, pour tout le monde qui veut vraiment avoir une actualité très, très à jour sur ce qui se passe lundi soir, c'est vraiment la soirée pour ça. Deuxième et dernière suggestion à l'agenda, un recueil de textes qui vient tout juste de paraître chez Éco-Société. La nature de l'injustice, racisme et inégalités environnementales, des textes des co-directrices du projet Saba Khan et Catherine Almich. Et je nommerai pas tout le monde, il y a vraiment plein d'auteurs, mais des textes aussi de, entre autres, David Suzuki, Hélène Gabriel, entre autres. avec lesquels on explore les impacts démesurés des changements climatiques et de la pollution sur les communautés les plus pauvres et souvent laissées pour compte par les puissants. Communautés immigrantes et autochtones principalement, avec quelques exemples à l'international comme les Roms ou les réfugiés en Europe qu'on force souvent à vivre dans des décharges ou des sites contaminés. On peut aussi penser aux Rohingyas qu'on parque dans des zones inondables infestées de maladies. Bref, un nouveau livre sur les injustices environnementales dont je rappelle le titre, « La nature de l'injustice ». Voilà pour l'agenda.
Ben écoute, c'est bien, des bonnes suggestions.
Ben oui, puis sinon, ben cinéma sous les étoiles, il y a plein d'affaires
cet été. Oui, il y a plein de bons films. Quand il n'y a pas d'orage, là.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il doit y avoir quand même pas mal d'annulations.
Il y a eu des remises de date, allez voir l'horaire, là, ça a beaucoup changé, ouais.
Donc c'est la fin de cette édition des Apatrides anonymes du 13 juillet 2023. Avant de présenter la pièce musicale finale, je vais saluer mes deux camarades Mathieu et Marie-Ève.
Salut camarade Simon.
Salut camarade. Beaucoup de recherches, de contenu et de synthèse. C'est important pour arriver à rendre digeste des enjeux parfois complexes. Donc merci beaucoup à vous deux.
Merci pour l'animation Simon.
Fait plaisir. Je vous laisse nos coordonnées, évidemment, le courriel apatridesanonymes@resist.ca. Notre page FB, que je ne sais pas si on va la conserver, puisque plein de contenu ne pourra plus être partagé, puisque Zuckerberg est fâché contre le gouvernement fédéral.
On va mettre des textes seulement d'infomigrants, c'est européen. Fait que...
Ça va passer, c'est ça. on va s'arranger pour des textes de Radio-Canada, mais repris par des médias européens.
Exactement.
Il y a aussi notre site web à patridesanonymes.info où tous nos balados sont en rattrapage, ainsi évidemment que dans choc.ca. C'était mal formulé, mais en tout cas, vous avez compris.
Oui, oui.
Et finalement, on peut aussi être écouté sur les ondes FM de Radio Victoria sur la côte ouest. C'est là tout le monde dans la région. La dernière pièce, donc, bon, le festival de jazz vient de finir, fait qu'on y va avec un genre de jazz rock, peut-être, ça brasse quand même assez. C'est un quatuor, bass, drum, guitare, sax de Minneapolis, de Bad Plus ou de Bad Plus. Ils sont bien établis depuis les années fin 90, une quinzaine d'albums à leur actif. On va entendre la pièce Not Even Close to Far Off de leur dernier album éponyme. Le titre de l'album est donc The Bad Plus, vous avez compris. Donc voilà, c'était Simon à l'animation cette fois-ci. Encore une fois, merci Marie-Ève Mathieu. On se retrouve pour un nouveau podcast des Apatrides anonymes en direct des studios de Choc dans deux semaines, le 27 juillet 2023.
C'est un rendez-vous.
C'est un rendez-vous et merci à tout le monde de nous écouter. On apprécie beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire. Bonne soirée et portez-vous bien.
Au revoir.
Bonne soirée.